Bonsoir, bienvenue à cette séance du cycle Leila Pacalnina, drôle de réel. Donc on va projeter un programme de deux courts-métrages, Neige, où vous allez assister à la folie du ski dans un pays sans montagne, voilà. Et l'autobus, hein, qui, vous allez voir, suit un trajet qui est un parcours, je dirais, spatio-temporel aussi, avec des frontières, hein, qui est une des thématiques, pour ceux qui ont vu notamment le ferry tout à l'heure, qui est quelque chose qui revient beaucoup dans le cinéma de Leila Pacalnina, que je vous demande d'accueillir. Et puis, on a le plaisir d'accueillir pour cette séance, puisqu'il y aura un dialogue. J'avais envie que Leila dialogue avec quelqu'un, un cinéaste, qui connaît le travail de Leila, qui l'aime beaucoup. C'est Guillaume Massard qui va nous rejoindre également. Guillaume Massard, que vous connaissez peut-être, dont les films ont été montrés à... notamment à Cinéma du Réel. S'il y a des habitués de Cinéma du Réel ici, ils connaissent Guillaume. Et puis Guillaume, je le remercie beaucoup de se rendre disponible parce qu'il est, sur la route. C'est un cinéaste itinérant et qui est à la 11e semaine de l'accompagnement de son film La Liberté, donc qui est sorti le 20 février. Et qui est un film vraiment formidable, que si vous n'avez pas vu, que je vous conseille beaucoup. Voilà, et puis peut-être je vais donner la parole à Guillaume, qui va nous dire la raison de ça. Enfin, je l'ai un petit peu dit, mais qui va nous expliquer la raison, pourquoi j'ai pensé à lui.
Bonsoir, merci. Merci Arnaud de m'avoir invité. Arnaud m'a invité en me disant que j'étais le plus grand fan qu'il connaissait de Leila Pacalnina, ce qui m'a un peu surpris, qui m'a un peu pris de court. J'avais découvert le travail de Leila justement au Cinéma du Réel, il y a quelques années, avec un film qui s'appelait On Rubik's Road, et qui, peut-être certains l'avaient vu ici, qui est un film très étonnant, très surprenant, où il n'y a pas énormément de narration, sinon celle des corps dans l'espace. La manière dont les gens se déplacent dans un parc a été suffisamment forte pour, dans l'œil de Leila, devenir un film. C'est vraiment un film dans lequel tout tient dans la manière dont on arpente l'espace d'un parc, d'un lieu public. Et j'avais été complètement stupéfait par cette capacité de faire film à partir de si peu de choses, à partir d'un quotidien aussi banal. Et d'en faire un film drôle, étonnant, burlesque, poétique, grave par moments. Et voilà, ça a été pour moi une source d'inspiration pour des courts-métrages. Et puis j'avais écrit un petit peu dessus. Et puis l'œuvre de Leila Pacalnina n'est plus apparue en France. Après ce film, moi je ne l'ai pas revu passer. J'ai eu la chance de croiser certains de ses films en festival ou ailleurs. Je vous encourage très très vivement à aller voir un film qui s'appelle Bonjour Cheval, qui passe demain, je crois.
Ainsi que On Rubik's Road.
Et On Rubik's Road passe aussi.
Puisqu'on a francisé les termes.
Voilà. Et donc régulièrement, j'en parlais autour de moi. Je disais, il faut voir les films de Leila. Et voilà, la grande chance, c'est que maintenant on peut les voir ici à Paris grâce à la Cinémathèque du documentaire. Voilà. Merci Arnaud.
Donc, on va échanger à la suite de la projection. Maintenant, on commence à avoir nos petites habitudes avec Leila, qui n'aime pas beaucoup parler avant, mais quand même, je lui permets de parler avant. Est-ce que, Leila, tu veux dire quelque chose pour introduire les deux films, Neige et l'autobus ?
Non. Est-ce que Patrick Lebacher?
Je voulais dire bonsoir.
Un tas būtībā arī viss, jo es domāju, ka filmas ir jāskatās, nevis par viņām jārunā.
Et essentiellement c'est tout parce que je pense que les films il faut les voir et pas en parler.
Un Jā, zālē pēc filmām būs vēl kāds skatītājs palicis. Tad mēs varēsim parunāt.
Et s'il en restera encore des spectateurs dans la salle après la projection, donc on pourra en parler.
Merci beaucoup, Leïla. Merci, Guillaume. Et à tout à l'heure pour un grand moment de parole entre Guillaume et Leïla. Voilà. Bonne projection. Bien. Alors, je voudrais remercier pour cette projection-ci les archives du film d'Estonie, puisque la copie vient de là-bas, puis ils l'ont mis à notre disposition gracieusement. Donc c'était une copie 35 mm hein, pour le bus, belle copie. Et puis j'en profite pour remercier Thomas et Isabelle en projection, puisque voilà, on oublie souvent, mais il y a du travail derrière, et ainsi que Fabian qui a fait le sous-titrage électronique ici et qui a travaillé, on va dire, qui a fait preuve d'une grande faculté d'adaptation, voilà, pour le dire gentiment. Voilà, merci à eux. Et puis je demande à Leïla de nous rejoindre, ainsi que Guillaume. Puis donc on va avoir une petite discussion sérieuse ou pas. Je pense que Zané ici, Leïla est là, Guillaume.
Non mais je repensais à ce que tu disais tout à l'heure au moment où effectivement j'ai découvert le travail de Leïla. Moi j'avais fait très peu de films à ce moment-là et ce qui m'intéressait beaucoup dans l'idée de faire du documentaire était aussi bien d'aller vers un cinéma direct que d'aller vers aussi un cinéma de mise en scène. Ça m'intéressait beaucoup cette question de la mise en scène dans le documentaire et à cette époque je me renseignais beaucoup sur des films qui osaient intervenir sur le réel sans pour autant que cette intervention devienne une trahison. Et voilà, je m'étais orientée par exemple vers des films documentaires réalisés par des cinéastes de fiction, comme par exemple Raoul Ruiz. Tout le moment où il a fait du documentaire, c'était un moment où il y avait une grande intervention au moment du tournage pour transcender le réel. Et puis, lorsque j'ai rencontré le travail de Leïla, j'ai découvert un autre moment de la mise en scène, qui est celui du montage, puisqu'il me semble que l'essentiel de la mise en scène, outre la grande qualité de cadrage, dans le travail de Leïla, arrive au moment du montage. Donc moi, ce que je connaissais surtout du travail de Leïla avant cette rétrospective qui me permet de découvrir d'autres pans de son travail, c'était un travail sur le montage dans le mouvement, avec un exemple tout bête qui est, par exemple, un ballon qui part du coin gauche vers le coin droit de l'écran, va être remplacé et se transformer dans un cut en un petit chien qui va faire un arc de cercle et revenir. Et on a beaucoup de jeux comme ça d'ordinaire dans les films de Leïla, des jeux d'entrée, de sortie de champ, des jeux de mouvement. Et tout fonctionne beaucoup sur ce raccord-là. Les films qu'on a vus ce soir sont beaucoup moins sur ce principe. Le bus, je ne l'avais jamais vu, donc j'étais très surpris de découvrir ça. Et ce qui m'a beaucoup frappé en regardant ces premiers films qu'on a vus à 17h et puis ces films-ci, c'est le travail du son, qui est un autre moment du travail du montage, le montage-son. Là, on vient de voir un film bruyant suivi d'un film très silencieux. Et puis, lorsqu'on a vu les premiers films à 17h, on a vu qu'il y avait aussi une très grande intervention sur le son. Et puis, lorsqu'on voit la bande-annonce qui démarre la séance, on voit des moments, quand je les vois, je me rappelle, on voit dans cette bande-annonce, par exemple, une vieille dame avec deux enfants sur le coin gauche de l'image, puis soudain arrive un chien. Et bien lorsque vous verrez ce film-là, Waterfall, je crois que c'est son nom, vous verrez que lorsque le chien passe, c'est un bruit d'avion qu'on entend. Et il y a comme ça des travaux sur le son. Parfois on est dans le direct, parfois on est perdu. En revoyant ces films-là et en découvrant ce film très bruyant qu'est Neige, et qui est un film qui est plutôt filmé de loin, et puis ce film plutôt silencieux, retenu, avec un son distancié, qui est pourtant filmé de très près dans la cabine de bus. Voilà, je me suis demandé à quel point Leïla avait un esprit de contradiction. Et comment est-ce que ce travail de montage, aussi bien à l'image, mais là cette fois-ci spécifiquement au son, venait ? Est-ce qu'il était pensé au moment du tournage ou est-ce que tout s'inventait, tout était possible au moment du montage ?
Vispār man ir vieglāk filmas taisīt nekā runāt par viņām.
Pour moi, c'est plus facile de faire des films qu'en parler.
Es laikam sākšu ar to pēdējo jautājumu par skaņu.
Donc on va commencer plutôt sur la deuxième question à propos de son.
Nu, tas ir ļoti, ļoti dažādi. Vai es domāju par skaņu uzreiz, nu, vai pirms filmas, vai montāžas laikā. Piemēram, filmā Papagena, kāda būs skaņa. Nu, tas princips, kā mēs veidosim skaņu, tas jau bija ietverts filmas idejā, un līdz ar to tas man ienāca prātā jau pirms filmēšanas.
Alors, la question de son, ça dépend vraiment d'un film à l'autre. C'est quelque chose qui vient dans le processus. Et par exemple, lorsqu'on parle de film Papagena, c'était quelque chose qui était naturellement inclus déjà dans le processus de la création du film.
Bet daudzās filmās pie ļoti daudz, kā mēs kopā ar skaņu režisoru nonākam pēc filmēšanas.
Pour beaucoup d'autres films, avec le régisseur son, on arrive au son justement après le film.
Un, principā es uzskatu, ka skaņa ir tikpat būtiska, cik attēls.
En principe, je considère que le son est tout aussi important que l'image.
Un, un tāpat laikā kaut kā tā sanāk, ka es, protams, nekad nevaru paredzēt, cik es pēc apstrādē, nu, post-production, ilgi strādāšu ar skaņu un cik ar bildi, bet līdz šim tas princips ir apmēram tāds, ka es montēju ļoti ātri, nu, ļoti ātri, bet ar skaņu es strādāju, nu, vismaz 4-5 reizes ilgāk kā ar montāžu.
Alors, concernant la question de son, dans le montage, j'arrive à monter très rapidement, alors que pour la question de son, ça me demande 4 à 5 fois plus de temps. Et pour la première partie, est-ce que vous pouvez peut-être reformuler la question?
Sur la question que je me posais, c'était finalement, pour essayer de le simplifier, de le reformuler autrement, par exemple, comment est-ce que vous inventez le bruit du chêne? Comment est-ce que vous décidez que lorsqu'on passe dans l'écorce du chêne, c'est ça le bruit d'un chêne? Ou bien, dans le film qu'on a vu aussi, ce clignotant, le bruit du clignotant au début du film, qui soudain va être remplacé par le bruit du son, par le son direct.
Dans la poste.
Dans la poste, ouais.
Tas ir iztēles jautājums, tas vienkārši kā ideja, tas ienāk prātā.
Ça c'est une question d'imagination, c'est comme une idée qui vient à l'esprit sur le moment.
Kā patiesībā jebkura ideja.
En réalité, comme n'importe quelle idée.
Bet tas nenozīmē, kā kura ideja strādā. Citreiz mēs pamēģinam, un tas nav labi. Bet, jā, tas vienkārši ir idejas.
Cela ne veut pas dire que ça marche toujours. Parfois on essaye, ça ne marche pas, mais c'est les idées.
Mais pourquoi, par exemple, si la poste avait commencé par ce travelling avec le camion, pourquoi si on avait commencé immédiatement sur le son direct, ça aurait été moins pertinent.
Atklāt sakot, ir grūti atbildēt uz jautājumu, kāpēc?
Pour dire honnêtement, il est difficile pour moi de dire pourquoi vraiment.
comprends.
Alors, comment? Parce que voilà. C'est vrai que, alors, il y a peut-être quelque chose de culturel et d'une tradition de la post-synchronisation, on va dire, de l'école russe, soviétique aussi. Et donc, et concrètement, notamment peut-être pour les premiers films qu'on a vus, mais aussi, je crois, que ça marche pour tous les films. Comment sont créés ces sons, puisque on n'est pas sûr que de la prise de son directe. On a vraiment l'impression que même que tu as fait appel à un bruiteur.
Labi, tad es sākšu no tā, kā varbūt es pati varētu izskaidrot, kā ir radies šis veids, kā es strādāju ar skaņu.
Oui, en effet, c'est cela. Je peux expliquer un peu comment est venue ma façon de travailler avec le son.
Jo tās filmas, ko jūs redzējāt, Beļa, Prāmis, Veļa un Prāmis bija filmētas ar padomju kameru, kas saucās Convas.
Les deux films que vous avez vus, Le Linge et Le Ferry, elles étaient tournées avec une caméra soviétique qui s'appelle Convas.
Convas. Nosauks par godu Konstantinam Vasiljevam, izgudrotājam.
À l'honneur de l'inventaire Konstantin Vasiljev.
Konvas. Un to kameru izdomāja kara laikā, viņa tika radīta otrā pasaules kara laikā.
Et cette caméra a été créée pendant la Seconde Guerre mondiale.
Un, tā nebija slikta kamera, taču tas, kas bija absolūti neiespējami rakstīt sinhronu skaņu.
C'est pas une mauvaise caméra, mais il était totalement impossible d'enregistrer de manière synchrone le son.
Viena iemesla dēļ, tāpēc, ka tā kamera bija ļoti skaļa, viņa strādāja kā traktors.
Et pour une bonne raison, parce que en fait cette caméra était très bruyante, en fait elle fait un bruit de tracteur.
Un, protams, mēs varējām rakstīt skaņu, bet visu laiku bija sajūta, ka kaut kur ir traktors.
Naturellement, on pouvait enregistrer directement le son, mais on avait toujours l'impression que quelque part travaillait un tracteur.
Tāpēc, piemēram, tādai filmai kā Prāmis, pilnīgi visu skaņu vajadzēja radīt par jaunu.
C'est pour ça, pour des films comme Le Ferry, tout le son devait être recréé.
Un tad, ja ir viss jārad par jaunu, tad tajā mirklī kļūst interesanti, nu, kāpēc likt, teiksim, motora vietā motoru, varbūt ir interesantāk, kā to aizvietot ar kādu citu skaņu.
Et du coup, au moment de montage, un nouveau travail commence, et c'est là qu'une question intéressante se pose, pourquoi mettre un bruit de moteur, par exemple pour le moteur, est-ce qu'on ne pourrait pas remplacer le son par autre chose?
Piemēram, Prāmī, tad, kad Prāmis tuvojas krastam, mēs izmantojām nevis motora skaņu, bet zemestrīces skaņu.
Par exemple, lorsque dans le cadre on voit le ferry qui s'approche la rive, en fait on a utilisé le bruit, pas de moteur, mais le bruit d'un tremblement de terre.
Un tāpatās arī jebkuri trokšņi ir skaņoti pēc tam.
Et tous les autres bruits ont été sonorisés après coup.
Un es pie šī principa, pie šī darba stila esmu palikusi joprojām, neskatoties uz to, ka šobrīd, protams, mēs filmējam ar digitālām kamerām un mēs ierakstam dzīvo skaņu.
Et malgré le fait que la technique a évolué et qu'aujourd'hui on tourne avec des caméras digitales qui naturellement permettent d'enregistrement direct, du coup je suis restée quand même fidèle à ce principe.
Ļoti bieži mēs to skaņu vienkārši izmantojam, nu, zināšanai, lai mums viņa būtu drošības pēc. Bet mēs tāpat tās veidojam visu pa jaunu.
Donc très souvent on garde le son original juste pour connaissance et tout est recréé après coup.
Un piemēram, ja mēs runājam par filmu Rumba, Waterfall, tad mēs bija skaidrs, ka patiesībā skaņu operatoram, skaņu režisoram ir diezgan neliederīgi braukt uz filmēšanu, jo visu laiku ir dzirdams viens troksnis, nu, ūdens skan.
Par exemple, si on parle de film Chute d'eau, vous l'avez traduit, voilà. Donc pour le régisseur son, il n'était pas utile de venir au tournage parce qu'on entend tout le temps le même son, le même bruit.
Bet, mēs ņēmām viņu līdz kā souvenir.
Mais on l'a pris avec nous comme un souvenir.
Mais je m'étais formulé effectivement en découvrant vos premiers films que cette pratique du son était un héritage effectivement de ces premières de la technique de l'époque et que vous aviez conservé ça et le grand intérêt de ce travail sonore c'est que le son est déshabillé et qu'on n'en a plus du tout l'habitude d'avoir un son si rare et qui permet de mettre en lumière des toutes petites choses qui peuvent ressortir soudain, le bruit d'une chaîne, le bruit de... Des bruits individualisés comme ça. Alors qu'aujourd'hui, lorsqu'on travaille effectivement en numérique, et lorsqu'on a commencé comme moi à travailler en numérique, on travaille avec des ingénieurs du son qui essayent d'avoir une nappe sonore permanente, d'entendre tout ce qui se passe autour. Et il m'est même arrivé, j'ai déjà vu ça en post-production, de rhabiller une interview. Le son de la voix était trop proche, il fallait ajouter des bruits de mouvement, des bruits de vêtements. Et lorsqu'on entend le son de vos films, notre oreille est surprise et ça crée comme un anachronisme, en somme. Et c'est ce décalage-là qui est extrêmement fertile.
Nu, jā, es piekrītu, jo tā tas ir, ja tu rādi pa jaunam skaņu. Tu faktiski vari salikt citādāk akcents. Tu pilnīgi tā kā nojauc realitāti un uzbūvē nu, savu skaņas pasauli un saliec akcentus tajā bildē pilnīgi citās vietās.
Oui, je suis tout à fait d'accord, car si on travaille avec le son après coup, en fait on peut déconstruire la réalité et mettre des accents à d'autres endroits auxquels on n'a pas pensé. Donc ça change complètement le rapport avec la réalité.
C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure en disant que faire entrer la mise en scène dans le réel, ce n'était pas nécessairement trahir le réel. C'était peut-être au contraire le souligner, l'aider à émerger et à être vu. Et c'est là où je vois le travail du cinéaste. C'est ce que vous faites, pas uniquement au montage, mais c'est ce que vous faites aussi au cadrage, ce que vous faites à la lumière. C'est ce que vous faites en étant présent là où on ne pense pas qu'il y a nécessairement quelque chose à voir. Et vous êtes là et vous regardez et quelque chose survient. Vous attendez le passage de quelqu'un et puis ensuite arrivera un chien qui va chasser des pigeons ou je ne sais quoi. Et soudain, quelque chose qui paraissait anodin va prendre une ampleur phénoménale. Et c'est là que se joue le cinéma. C'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure sur On Rubik's Road, c'est que vous créez de la dramaturgie à partir de bien peu, uniquement parce que vous filmez et parce que vous regardez. Alors je vais jusqu'à une question, vous inquiétez pas. C'est avant de filmer, par exemple, avant de filmer On Rubik's Road, qu'est-ce que vous vous attendez à trouver ? Puisque finalement, qu'est-ce qu'on verrait de neuf dans un parc que ce qu'on voit déjà ? Oui, oui, c'est une piste cyclable.
Mm. Es pirms es gribu pateikt, ka tas nav tā, ka mēs zinām.
Tout d'abord, je voulais dire que en fait, c'est pas vraiment qu'on sache ce qu'on veut.
Piemēram, nu, nevajag jau arī filmēt, nu, ne katram ir jāfilmē, bet ja ir vietas, vienalga, kaut vai Parīzē, kuras jums liekas, kuras jūs ļoti labi zinat, aizejiet tur un nosājieties un stāviet vienkārši vairākas stundas vienā vietā, un jūs redzēsiet tik daudz interesantu, un jūs sapratīsiet, ka par to vietu jūs neko patiesībā nezinat.
Alors, on n'est pas toujours obligé de tourner, mais par exemple, imaginons à Paris, dans un endroit que vous connaissez très bien, si par exemple vous vous postez à un endroit pendant plusieurs heures et que vous faites seulement regarder, vous allez voir des choses très intéressantes qu'on ne voit pas forcément.
Brīžiem, nu, ja man, es neuzskatu, ka man, nu, kā režisoram ir kaut kāda īpašā misija, bet, ja man kaut kā ir jātaisno tas, ko es daru, tad es varētu pateikt, ka es ietaupu skatītāja laiku.
Alors, je ne considère pas que moi, en tant que réalisatrice, j'ai une mission spéciale, mais lorsque je dois justifier mon travail, ce que je peux dire, c'est que moi, en tant que réalisatrice, j'économise du temps aux spectateurs.
Jo, piemēram, tādā filmā, kā Zirdziņa Halo, mēs filmējām vienā no tukšākajām Latvijas vietām, kur ir ļoti maz iedzīvotāji un kur faktiski nekas nenotiek.
Par exemple, pour le film comme Salut le cheval, on a tourné dans un endroit désertique de la Lettonie où en réalité il n'y a jamais rien qui se passe.
Un mēs tur stāvējām un salām ilgi un atlasījām nu, tos dažas kustības momentus, kas tur vispār notiek un salikām viņus kopā vienā filmā, lai skatītājiem nebūtu jātērē nedēļas un mēneši, lai to piedzīvotu.
Lorsqu'on tournait ce film, on était planté là pendant des heures dans le froid pour tourner. Et après, on a mis tous les morceaux bout à bout pour que le spectateur n'a pas à perdre des heures et des jours à regarder voilà, et chercher le mouvement.
Tāpatās, piemēram, lai aizbrauktu no Tallinas uz Kaļiņingrādu, jums būtu jāpatērē, nu, man liekas, tās bija 16 stundas. Bet es, protams, saprotu, ka šī nav nekāda, nu, tāda action filma. Bet šā vētā salīdzinot ar to, cik jums būtu garlaicīgi 16 stundu laikā, šī filma ite nemaz nav garlaicīga.
Par exemple, pour venir de Tallinn
no Tallinnas Kaļiņingrad.
Kaļiņingrad, il vous faudrait en fait 16 heures de route. Du coup, en fait, effectivement, le film, c'est pas vraiment un film d'action, mais quand même, pour vous, c'est beaucoup plus intéressant de regarder le film que faire cette route de 16 heures.
Un tāpatās bija ar, es atgriežos tagad pie tā jautājuma, tāpatās bija ar Rubika ceļu, ka vienkārši, nu, vienmēr notiek kaut kas interesants, vajag tikai pagaidīt. Mēs vienkārši stāvējām un gaidījām dažādās vietās, kamēr kaut ko sagaidījām.
Et là, donc, je reviens à la question sur la route de Rubik. En fait, on est juste resté planté dans certains endroits pendant des heures et donc on attendait l'action.
Un patiesībā tur bija tādas kaut kādas pilnīgi īpašās vietas. Ir bija tur tāda viena vieta, kur tur nekas speciāls nebija, tur nebija nekādas ne bēdri, nekas, bet kur mēs nolikām kameru un cilvēki tajā vietā sāka krist.
Alors, donc, il y a des endroits spéciaux. Par exemple, un endroit, on a poser la caméra. En fait, il n'y a pas de, la route n'est pas accidentée, rien du tout. Mais en fait, lorsqu'on a posté la caméra, les gens commençaient à tomber.
Et comment est-ce que vous faites pour embarquer une équipe et un producteur en disant « je vais aller dans un endroit où il ne se passe rien, je vais y rester très longtemps et il y aura un film, je vous jure ».
Aha, es atbildēšu šo jautājumu. Es pati producēju savus filmus.
En fait, c'est elle qui s'en charge de, ce, de réaliser ses propres films.
Et vous n'avez besoin de convaincre personne, même pas des gens qui vous aideraient à vous financer?
Vispār man ir jāpierāda, lai dabūtu finansējumu savām filmām, man ir jāraksta projekti.
Oui, en fait, pour avoir de financement pour mes films, je dois produire des projets.
On a, es nezinu. Kaut kā līdz šim ir veicies, latviski ir tas termiņš, ne latviski, viņš tāds tā kā aizņemts ir, bet ir tāds vārds batonēt. Ja? Nu, es nezinu, kā to var iztūkot, bet man, es batonēju tajos projektos.
Alors, donc, je vais essayer de trouver l'expression française pour remplacer l'expression lettonne. Alors, donc, en fait, lorsque je dois produire un projet, donc, je dois inventer les choses, je ne sais pas, envoyer de brouillard dans les yeux, on dirait peut-être ça en français. Oui, voilà, voilà, quelque chose comme ça.
Je vais revenir un petit peu sur la question de Guillaume qui est très, très intéressante sur effectivement le, comment est-ce qu'on élit un lieu ou une situation et se dire là il y a un film et c'est vrai que tu as une expression hein, dans un entretien qui avait donné, que tu avais donné à, pour le catalogue de Vision du Réel à Nyon en Suisse qui avait fait un panorama de tes films et il y a une expression alors je ne sais pas si tu vas pouvoir l'expliquer mais tu as l'expression de il y a un film là quand, et par exemple pour la cheminée que l'on a vu et que vous avez peut-être vu hier hein, c'est tu as vu cet endroit et tu as dit il y a un film là et tu savais que tu reviendrais alors c'est peut-être assez irrationnel, mais est-ce que tu peux peut-être expliquer cette idée qu'est-ce qui fait que, voilà, qu'un film apparaît quelque part?
Man liekas, ka to nevar paskaidrot, tā, jo tas tik tiešām tā ir, un tā ir noticis lielāk, nu, faktiski ar lielāko daļu manu filmu, ka tu nonāc vietā, tāpat kā ar skursteni tieši, tāpat notika ar prāmi, ka es nonācu tajā vietā un sapratu, ka te ir filma.
En réalité, on peut pas vraiment l'expliquer. Parce que c'est un peu comme ça à chaque fois. En fait, j'arrive dans un endroit et je comprends que là, il y aura un film. C'était comme ça pour la cheminée, c'était comme ça aussi pour le ferry.
Jo, un tāpatās, nu, ir pārsvarā jau par vietām un atmosfērām, man ir ļoti maz tādu, tā teikt, portretu filmu. Nu, ne, films par atsevišķiem cilvēkiem, bet piemēram, kad es ieraudzīju Teodoru, es sapratu, ka tā, kad viņš ir filma, tāpat filmas 33 svēra Ziemassvētku vecītim varone, es arī sapratu, ka tā ir filma. Vienkārši, nu, tāda sajūta.
Alors, en fait, j'ai très peu de films portraits, si on peut ainsi dire, si on parle un peu de cette question des ambiances et des lieux. Mais par exemple, si on parle de film Théodore, lorsque j'ai vu Théodore, j'ai compris que là, il y aura un film. C'était également un petit peu le cas pour le film 33 bêtes de, à Père Noël.
33 oui. animaux du Père Noël.
Oui, voilà. C'est des aléas de traduction.
Ja es varētu paskaidrot, nu, ja es varētu paskaidrot, ja es varētu aprakstīt to, kāpēc, tad droši vien tad tā, nu, tad, kā lai saka, nu, nebūtu šis noslēpums, šis neizskaidrojamais, kura dēļ, tieši šī neizskaidrojamā dēļ ir vērts taisīt filmu. Ja to varētu izskaidrot, man liekas, tad nebūtu vērts taisīt filmu.
Alors, en fait, si je pouvais expliquer ou décrire ce pourquoi on fait un film, je pense que le film perdrait son secret, son pourquoi qui fait qu'il existe un petit mystère autour d'un film.
Je crois qu'il y a pour vous un mystère toujours à regarder quelqu'un. Parce que j'ai remarqué à force de voir vos films qu'il y a une figure de style récurrente qui est celle de demander aux personnes de se tenir devant la caméra sans rien dire et d'attendre le temps du portrait et ensuite vous laissez toujours dans le montage ce moment où les gens hésitent à sortir du cadre, à rester, on l'a vu ici, on le voit dans d'autres de vos films, on le voit dans le cours I'll Be There, on le voit régulièrement et on le voit dans Papagena dont vous parliez. Cette figure de style, vous l'inventez très très tôt, elle arrive tôt finalement dans votre cinéma, elle vient d'où ? Et qu'est-ce que vous y cherchez ?
Es īsti tagad neatceros, kad man liekas, varbūt, ka Papagena arī bija pirmā filma, kur mēs šo metodi pielietojām, bet man patiesībā patīk, ka šis apjukuma mirklis, kad cilvēks īsti nesaprot iet prom vai palikt, jo man liekas, tas mirklis ir ļoti paties. Tas ir pat patiesāks nekā viņš vienkārši stāv un skatās kamerā.
Je ne saurais pas vraiment dire à quel moment cette mise en scène, cette scène m'est venue à l'esprit. Peut-être effectivement c'était d'abord avec le Papagena, mais en fait ce qui est très intéressant à ce moment d'un petit peu de confusion où la personne hésite, c'est que c'est vraiment très vrai, très naturel. C'est encore plus naturel que lorsqu'on poste la personne devant la caméra, qu'elle le regarde.
On a... Piemēram, šajā sakarā es ilgi sen nebiju skatījusies filmu Autobuss, bet mēs esam izgriežuši ārā skaņu, ko mēs dažreiz ir izgriezt skaņu, ko mēs sakam cilvēkiem, kad viņi stāv un skatās kamerām, kad mēs viņiem pasakām paldies, tas ir izgriezts ārā.
À ce propos, ça m'est revenu lorsque je regardais le bus, que souvent, en fait, le moment on parle dans le film, on dit aux gens merci, en fait, on le coupe.
On a viena no manām mīļākajām frāzēm, ko mēs ilgi paturējām melnajā skaņā, jo man patika to klausīties, bija, jo es nu, nekad šādā veidā neesmu runājis ar ceļu policistiem.
Une des mes phrases préférées qu'on gardait longtemps dans le brouillon, je sais pas le je connais pas le terme français. Oui, le son de montage, c'est la phrase que je disais à la police routière.
Mēs Lietuvā filmējām policijas brigādi, kas stāvēja pie savas mašīnas, un tad tur bija tāda skaņa. Un tagad sēdieties mašīnā un ātri brauciet prom. Un man patiesībā reālajā dzīvē, kad man aptur policisti, es ļoti labprāt viņiem to pateikt, bet... man nav tādas tiesības, bet tajā mirklī Es biju režisors un es viņiem tā varēju teikt.
Par exemple, au moment où on voit dans le film la brigade routière devant leur voiture, donc longtemps on a gardé la phrase qui est ma phrase qui était OK, merci, là vous pouvez vous asseoir et s'en aller très rapidement. Et souvent, lorsque je me fais arrêter par la police routière, je pense toujours à cette phrase, à quel point j'aurais envie de maintenant leur dire ça.
C'est ce pouvoir de la mise en scène dont vous parliez. Quand on pose une caméra quelque part, les gens commencent à tomber. Et puis, les gens commencent aussi un peu à vous obéir. Et vous les rendez obéissants ensuite au montage, encore plus. Tu pars dans le coin droit, puis tu vas revenir dans le coin gauche. Peut-être pour ça que vous faites aussi de la fiction, pour parfois aussi diriger.
Patiesībā, man ir ļoti maz inscenētu momentu dokumentālajās filmās, un varbūt šie te portreti, jeb tā saucamās portretu beigas, ir varbūt vienīgais, kas ir tā kā režisēts manās dokumentālajās filmās, jo es izbaudu to iespēju veidot gan spēlfilmas, gan dokumentālās filmas, un tāpēc es dokumentālās filmās man nav patiesībā vēlēšanās inscenēt.
Alors, si on parle de cette capacité de faire les choses aux gens, à vrai dire, dans mes films documentaires, il y a très peu d'intervention de ma part, à part peut-être vraiment ce moment où la personne hésite avant de partir. C'est vraiment le seul moment où j'interviens dans mes documentaires, parce qu'en réalité, j'ai pas ce désir d'intervenir. Voilà, c'est pour ça qu'il existe à côté aussi les films de création. Voilà.
Bien. Est-ce que vous avez des questions, des impressions à partager avec Leila?
Merci. Non, je voulais juste personnellement faire remarquer que je trouve moi une différence quand même dans la façon de tourner et d'intervenir personnellement entre les quatre premiers films noir et blanc, bien évidemment. Donc il y a et puis les deux derniers. Donc j'ai l'impression que le noir et blanc lorsque vous parliez d'un espace, d'une découverte d'un lieu, d'un espace, qu'au contraire, presque moins la réalité était prégnante et venait vers vous, que ce soit par une action, etc., plus au contraire, vous alliez créer, par votre imaginaire, éduquer le regard et recréer presque un réel. Dans les deux derniers films en couleur, la réalité existe, il y a une action comme ça. Et là, vous intervenez autrement, en faisant parler les personnes, en accompagnant un peu ce qui se passe. Alors, je voulais savoir si aujourd'hui, parce que y a le temps réel façonne aussi les réalités. Là, on parle avec Eurolines, on reconnaît quelque chose qui n'appartient, qui est un peu partout en Europe. Est-ce que vous sentez une évolution chez vous, ou est-ce qu'il est difficile aujourd'hui de trouver justement ces espaces dans lesquels vous moins il existe une réalité qui se détache, plus vous allez quelque part inventer un réel, quoi. Enfin, une possibilité de réel qui s'adresse plus à notre imaginaire.
Je
ne sais pas comment expliquer mon ressenti là-dessus.
Es droši vien sapratu.
Je pense que j'ai compris.
Bet es gribētu vēl pateikt, ka šīs pilnīgi noteikti nav manas jaunākās filmas, ko mēs redzējām šeit.
Mais je voulais dire que c'est sûrement pas mes tout dernières films qu'on a vu là.
Un šīs divas filmas pēc būtības vispār ir atšķirīgas no daudzām manām filmām. Jo, piemēram, salīdzinot ar Zirdziņa Halo ir visjaunākā filma. Šīs ir, nu, piemēram, Autobuss ir 4. Gada filma, tas ir 15 gadus veci jau.
Alors, si on compare ces deux derniers films que vous avez vus, il faut dire que ces deux films sont vraiment très différents de reste de la création. Par exemple, si on compare avec Salut le cheval, qui est le dernier film, qui est vraiment très différent.
On a quatre films à y avoir. Kaut gan es saprotu, ka es kā režisors, nu, es nevaru noslēpt to, ka es esmu taisījis visu šīs filmas. Nu, tas kaut kur noteikti vizuāli nāk ārā, bet tomēr katra tā filmas ideja arī manām filmām prasa kaut kādu citu īstenojumu veidu.
J'imagine que je ne peux pas cacher le fait que j'ai réalisé tous ces films, visuellement ça doit se voir, mais en fait chaque film demande une autre approche.
Jo, piemēram, Autobuss ir ļoti spécifisks ar to, ka man šķiet nevienā manā filmā, ne aktieru kino, ne dokumentālā kino. Es neļauju operatoram strādāt ar rokas kameru.
Alors le but c'est vraiment très différent parce que dans les films que j'ai réalisés, jamais je ne laisse le cameraman de travailler avec une caméra à main.
Un piemēram, bet Autobusā man bija, es strādāju ar diviem operatoriem, no kuriem viens filmēja no statīva, bet otrs filmēja no rokas.
Alors pour le bus, j'ai travaillé avec deux caméramans, dont un utilisait un pied et l'autre utilisait une caméra à main.
Un tā bija ļoti apzinī, kaut arī tas bija zināmā mērā risks, jo nevienmēr tas varētu izdoties savienot, nu, teiksim, statiskus kadrus ar kustīgiem kadriem.
Naturellement, dans une certaine manière, c'était un risque qu'on prenait parce que parfois, on n'est pas sûr de pouvoir unir les cadres fixes avec les cadres qui au mouvement.
Tā bija ļoti, nu, kā lai saka, apzināta izvēle un šis operators, kurš filmēja ar rokas kameru, varbūt ir viens no dažiem pasaulē, ar kuru strādājot, es viņam ļautu filmēt no rokas, jo viņa attēls ir tāds, ka tā kā kamera turpina viņa, nu, es varētu teikt, tā kā sirdi, nu, tad, kad viņš viņa rokās tā kamera, nu, burtiski elpo kopā ar viņu.
Alors, le caméraman qui travaillait avec la caméra à main est quelqu'un vraiment de très très spécial en qui j'ai vraiment entière confiance parce que lorsqu'il travaille en fait son caméra c'est vraiment un petit peu comme son cœur sous la main en fait comme sa continuité et c'est vraiment parmi des rares personnes à qui je pourrais confier ce travail.
Tas šobrīd ir Krievijā ļoti pazīstams operators, viņu sauc Alisheris Kamičkadžajevs.
Donc son nom c'est
Alisher Kamičkadžajev.
Voilà, donc ça c'est son nom, et c'est devenu un caméraman très très connu en ce moment en Russie.
Pēc tautības viņš ir uzbeks, bet viņš strādā Krievijā.
Alors, il est de nationalité uzbek, mais il travaille en Russie.
Oui.
Mais justement, la caméra à la main, le plan de la main sur le volant du chauffeur qui a une alliance et qui remonte très doucement sur le visage du chauffeur, c'est vous qui l'avez vu ou c'est l'opérateur?
À ce moment-là, oui, c'était le caméraman.
C'est un bon opérateur. On va tous apprendre son nom, à prononcer son nom. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, Julie.
Oui, je voulais vous dire, évidemment, c'est difficile, c'est peut-être pas une question, mais j'aime vraiment beaucoup votre manière de filmer en fait les creux et les vides de la vie, enfin, tous ces moments que certains pourraient dire que c'est du rien, que c'est tout ce qu'on vit nous tous, tous les jours, tous ces moments de vide et d'attente ou de choses qui relient peut-être des moments plus intenses, des moments d'action. Et en même temps, derrière tous ces creux, se raconte, je trouve, en creux, quand même des histoires. Même si on peut se dire qu'il n'y a pas d'histoire dans vos films, moi je trouve qu'il y a vraiment des histoires. Et c'est ça qui est très émouvant quand on les voit et puis quand on les découvre tous, c'est que il y a quand même l'histoire de ce Théodore qu'on peut imaginer, du coup, dans ces creux, comme si c'était entre les lignes de sa vie. On a en tout cas envie de nous imaginer comment c'est chez lui avant qu'il fasse cette route pour aller à cette petite cabane. On a envie d'en savoir plus de ses enfants dans leur maison, et ça raconte en fait beaucoup de choses, et ça nous oblige nous aussi à regarder différemment la vie, à s'intéresser à tous ces moments que dans les bus, dans les attentes, dans les gens qui dorment, dans tous ces moments qui en fait sont très révélateurs. Et en même temps, je me dis que c'est peut-être révélateur de vide aussi, de vide de ce pays, peut-être qu'il y a par moments où des gens qui sont face à un vide ou à de l'ennui, à des choses qui sont... je ne sais pas ce que vous pensez que ça révèle quand même, ou de la société, ou de votre regard à vous sur ce que dit ce pays à ce moment-là. Et puis aussi, si c'est des choses qui racontent des choses de vous, est-ce que quand même dans tous ces lieux que vous allez observer, est-ce qu'il n'y a pas aussi des choses qui vous touchent, évidemment, sûrement, personnellement, des souvenirs à vous d'enfance, des souvenirs de tous ces... Moi qui connais un peu les pays de l'Est, je trouve que c'est très très révélateur chaque fois de l'atmosphère de ce pays. Voilà, c'est un peu confus comme question, mais...
Man patika ienāca prātā, ka klausoties jūsos, ka varbūt, ka mēs ļoti izšķērtīgi attiecamies pret savu dzīvi. Es tagad nerunāju par filmām, bet vispār par to, kā mēs dzīvojam. Jo, kā jūs teicāt, mēs ļoti daudz gaidam un garlaikojamies. Bet patiesībā, un tad mēs gaidām to notikumu, bet patiesībā pati tā gaidīšanas laikā, mēs tā kā izšķērdējam dzīvi, kas patiesībā ir pilna ar ļoti intensīvām lietām.
Alors, lorsque je vous écoute, là, ça me fait penser que, en fait, souvent, à ce moment-là où il n'y a rien qui se passe, on est qu'on est en attente d'un événement. En fait, on est très dépensier avec notre vie, on perd notre temps, alors qu'en réalité, en fait, il faudrait vivre ces moments-là.
Mais tam es varbūt arī nepiekrītu, kad tieši Austrumu Eiropā filmās ir jūtam nu, tā valsts, kurā ir filmēts, ja? Jo, nu, beidziet, es franču filmās arī ļoti jūtu valsti, kurā viņas ir filmētas. Varbūt jums vienkārši, nu, jums apkārt ir tā Francija, un tāpēc jūs to nejūtat.
Alors, si on parle plutôt de la deuxième partie de votre remarque sur l'ambiance pays de l'Est, alors arrêtez s'il vous plaît, parce que moi aussi, je sens, lorsque je regarde les films français, l'ambiance française. Et peut-être pour vous qui êtes ici dans l'ambiance française en France, ça vous semble naturel, vous ne le remarquez pas vous-même, alors que moi je le vois.
Donc on s'ennuie pas en Lettonie. Il se passe plein de choses.
Non, en France hier, non, par Lettonie.
Non, et en France non plus.
Non plus, bien sûr. Guillaume, on va, je pense, pas tarder à s'arrêter. Est-ce que tu veux tu as le droit à la question de la fin ou au mot de la fin, si tu en as. On est bon. Est-ce que Leila a assez parlé?
Oui.
Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc j'ajoute juste que donc Leila est là demain également à 17h. Donc il y a une séance où on va voir une boutique perdue au milieu de nulle part, mais où il se passe évidemment plein de choses. Des chutes d'eau très basses, mais très larges, les plus larges d'Europe, je crois. donc cette route où il ne se passe rien, mais quand on y reste longtemps, il se passe beaucoup de choses. Et puis, la fameuse piste cyclable de Rubix. Voilà. Et puis, Leila sera aussi là lundi soir, mais j'annoncerai le programme demain. Bonne soirée, merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, Guillaume.